Demain soir à 20h, temps universel. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de nous avoir écoutés. Le prochain journal, ce sera d'ici une cinquantaine de minutes. D'ici là, très bonne suite des programmes.
Radio G. RNT à Angers. Radio G, un point c'est tout.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Alors, il y a des émissions comme ça, on sent que l'énergie elle est là dès le départ, qu'on va pas avoir, je vais pas avoir grand chose à faire en termes d'animation, plutôt de contenir, je vais faire plutôt le rôle de surveillant dans la cour d'école éventuellement pour cadrer les choses, parce qu'il y a de belles énergies. Donc ce soir en invité dans Topette, on parlera en deuxième partie d'émission avec Quentin Ménard et François Gobert de Cinéma Sprint. Il me semble que c'est la sixième édition. C'est la septième édition, hein, j'ai juste pas lu ce que j'avais écrit. Ils vont nous parler, alors c'est complet pour les inscriptions, j'ai cru comprendre, et mais en tout cas on peut venir en tant que public pour assister à cette septième édition du Cinéma Sprint. Ce sera dans le cadre de Premier Plan au mois de janvier 2026. La date précise dans quelques minutes. En première partie d'émission, on sera avec Emmanuel Berson, Manu, co-gérant de Pépina, avec deux autres personnes. Il va nous représenter ce qu'est Pépina. Il va nous parler aussi de ces pépinaros, comme on pourrait les appeler, je ne sais pas. Il nous dira tout à l'heure le terme précis des personnes qui sont à Pépina, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'elles font et à quoi sert, comment marche ce concept. Il pourra aussi nous parler du marché de Noël qui est organisé à Pépina. Ça tombe bien, c'est Noël bientôt. Je pense que c'est en lien, c'est en rapport avec le calendrier. Bonsoir Mathieu. Il me regarde, il n'a pas de micro, il n'a pas de casque. Comment vas-tu?
Bonsoir, je vais très bien et toi?
Bah ça va, joyeux Noël.
Merci, bah on
avance. Je te dis en avance, oui, parce qu'on va pas se revoir d'ici là.
Je pense pas, non.
Alors on fait quoi? C'est la quatrième partie de l'histoire des jeux vidéo. On fait quoi
non,
tout
non,
à l'heure?
Non, on va rester dans la cour d'école avec toi en tant qu'enseignant, puisque la dernière fois tu m'avais posé la question de les enfants jouent-ils moins aux jeux vidéo maintenant qu'avant, donc on va répondre à cette question.
Ok, j'ai enlevé la coordonnée qu'il y avait je vais faire ça en antenne. Et bah ce sera autour de 18h34. On aura aussi Tonton Albert en fin d'émission. Topette, c'est parti.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant de commencer, un point sur l'actu, et ce soir, c'est avec toi, Astrid.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
À Angers, le département de Maine-et-Loire renforce son engagement pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Le mardi 2 décembre 2025, une convention a été signée avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour la période 2025 et 2027 avec un budget de 1,45 million d'euros. L'objectif, favoriser le recrutement de nouveaux agents en situation de handicap, mais aussi maintenir dans l'emploi ceux déjà en poste. Depuis 2024-40, agents supplémentaires ont été recrutés et aujourd'hui 234 agents sont reconnus en situation de handicap dans l'administration départementale. Pour Xavier Testard, vice-président en charge des ressources, au-delà des obligations légales, il s'agit avant tout d'un devoir moral. Côté criminalité, vous vous souvenez peut-être de cette affaire. Il y a 9 mois, des enlèvements avaient secoué le Maine-et-Loire. L'affaire a connu ce mois-ci un tournant majeur avec l'interpellation de plusieurs personnes. Je vous redonne les faits. Fin février 2025, les gendarmes de la section de recherche d'Angers avaient découvert ce qu'ils décrivent comme un narcosystème d'une violence rare. Tout commence le 27 février. Deux hommes sont enlevés en pleine rue à Saint-Léger sous Cholet, puis un troisième à Nantes quelques heures plus tard. Le contexte de ces enlèvements serait la disparition de près de 300 kilos de cannabis sur une cargaison de 800 kilos, réceptionnée quelques jours plus tôt dans le Morbihan. Une perte énorme, perçue comme une trahison par les trafiquants qui auraient dressé une liste de suspects avec les trois enlevés en tête. Les trois victimes avaient été retrouvées blessées mais vivantes dès le lendemain. Depuis, l'enquête a progressé, permettant d'arrêter une dizaine de personnes, notamment à Nantes, Rezé et Couëron. Les suspects, âgés de 25 à 42 ans, enfants sont pour beaucoup déjà connus de la justice. La juridiction pénale spécialisée de Rennes doit maintenant déterminer le rôle de chacun dans le trafic, comme dans les trois enlèvements. Au niveau de l'animation, j'espère que vous n'avez pas manqué ce week-end la 26e édition du festival Angers BD, qui a de nouveau investi le centre des congrès pour célébrer plus de 25 ans de passion pour le 9e art. Pendant deux jours, le public a pu rencontrer une quarantaine d'auteurs, dont des invités internationaux comme l'italienne Barbara Canepa, mais aussi des mangaka français tels que Juste Louis ou encore les angevins Tony Emerio et Boris Bezelin, présents pour des séances de dédicaces, des conférences et des moments d'échange privilégiés avec les fans et le public. La programmation était une nouvelle fois très riche cette année, entre remise de prix, exposition, atelier jeunesse, concours de dessin et la traditionnelle conférence vin et BD qui mêle territoire et bande dessinée. Le festival doit aussi sa réussite à une cinquantaine de bénévoles très investis, dont l'énergie permet chaque année de maintenir l'événement malgré un budget toujours plus serré. Maintenant, rendez-vous en 2026 pour la 27e édition.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Astrid, on se revoit dans deux semaines ou l'année prochaine en fonction du calendrier, puisque oui, on sera en vacances dans deux semaines, pendant deux semaines justement, le temps des vacances de Noël. Et puisque c'est Noël, on vous rappelle que MJ Entreprendre vous propose le marché de Noël le dimanche 14 décembre de 10h à 18h sur la place Robert Schumann à Montreuil-Junier, avec 25 stands issus du cru, hein, tout simplement de Montreuil-Junier, puis même la présence du Père Noël, peut-être, alors le vrai Père Noël il sera pas dispo, donc c'est peut-être Adrien Coron qui s'en chargera, nos chroniqueurs. On a aussi le Slam Poésie Club le mercredi 10 décembre à 20h au Welsh. Les inscriptions pour monter sur scène, déclamer des poèmes, c'est à partir de 19h. Vous pouvez venir sinon en tant que spectateur ou spectatrice. Et ce week-end, les 13 et 14 décembre, Sésame Angers vous propose un spectacle de Noël. Là aussi, le Jola Circus, les étoiles de Noël. Vous pouvez tout simplement aller sur la billetterie sur Hello Asso ou alors nous demander sur contact@radio-g.fr. Maintenant, on accueille notre invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Manu.
Salut.
Je t'appelle Manu et tu t'appelles en réalité Emmanuel Berson.
Tout à fait.
Et tu es co-gérant de Pépina. Alors j'utilise le terme de co-gérant, je ne sais pas, vous êtes trois au total, il y a toi, Antoine.
Ouais. Et Victor, on est trois potes du lycée, et puis on a monté ça il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans, ouais.
Voilà, alors Pépina, c'est assez connu, beaucoup de gens gravitent autour de cet établissement, c'est dans les anciens locaux de l'AFPA, vous êtes en colocation un petit peu avec ce qui reste de l'AFPA.
Ouais, alors connu, je sais pas, mais en tout cas, on est bien en colocation dans l'AFPA, on a 1600 m² d'ateliers partagés dans ce complexe AFPA, dans le village AFPA, ce qu'ils appellent maintenant.
Rue Lequeux.
Guillaume Lequeux.
Ouais, Guillaume Lequeux, voilà. Direction Saint-Barthélemy d'Anjou, l'ancienne route avant que l'avenue Montaigne soit faite et la rocade Est et tout ça pour le point historique, urbanistique d'Angers. Ce qui nous intéresse, c'est surtout Pépina. Alors, l'occasion, puisque tu es là, de nous représenter un petit peu l'historique, le concept et puis éventuellement les effectifs. Alors, peut-être pas tous les noms, mais dans l'idée, les thématiques qui se dégagent en termes d'activité. Pour l'historique, tu parlais de trois copains, en gros, qui ont eu l'idée de monter ça. Alors, toi, tu faisais quoi et tes deux comparses, ils faisaient quoi avant?
En gros, moi j'ai fait une école de commerce, je me suis sacrément bien embêté en école de commerce. Du coup, je me suis formé sans dire à personne ce que j'allais faire. Je me suis formé à la menuiserie avec un pote et c'était l'époque de la Startup Nation avec l'ouverture du Numa à Paris, de Station F qui venait d'être inaugurée et pas mal de camarades d'école de commerce qui montaient leur startup. Et moi, j'ai monté une entreprise de menuiserie. Et en fait, l'entreprise de menuiserie, quand tu veux commencer, en fait, il te faut 100 000 euros, il te faut des locaux, il te faut des machines, il te faut pas mal de choses. Et en fait, nous, on n'avait rien, on s'est fait refuser plein de prêts à la banque. Et on s'est démerdé. Vraiment, on a fait avec les moyens du bord pour trouver les premiers clients, pour trouver un peu de machines, un petit espace à Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. C'est à ce moment-là que je me suis... Ah ouais, en fait, on est en train de dire la Startup Nation, il faut créer, il faut faire plein de choses, mais en fait, il y a rien pour les artisans. Donc ça a mûri, et puis j'ai appelé Victor et Antoine, je leur ai un peu expliqué, je l'ai fait très très courte, hein. Et ils m'ont dit, bah ouais, en fait, feu, il faut qu'on le fasse. Et donc le but, c'est de mettre le plus d'avantages possible à ceux qui veulent créer dans l'artisanat. Donc typiquement, si tu viens chez Pépina et que tu es menuisier, eh bien, tu as accès à un atelier bois complet, avec des machines complètes. Tu n'as pas besoin d'emprunter de l'argent à la banque pour te lancer. Et puis, c'est des petits, c'est des contrats de prestation de service. Donc, ça dure que 3 mois ou plus. Il n'y a pas de, c'est minimum 3 mois et après plus si affinité. Et en fait, voilà, tout est mis à disposition. On va essayer de trouver des clients pour les résidents. On va essayer de faire une communauté et que tout le monde puisse travailler ensemble. Deux chiffres. Il y a 70 résidents aujourd'hui chez Pépina et il y a 43 métiers différents.
Alors 43 métiers, on va pas tous les citer là non plus. Non. Dans les grandes lignes, alors j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de bois. Peut-être que tu as mis ta patte justement, il y a un bel atelier menuiserie.
Il y a un atelier menuiserie d'un peu plus de 300 mètres carrés. Il y a un labo cuisine pour les traiteurs, les food trucks, les pâtissiers. Là, il y a une dizaine de professionnels qui sont installés chez nous. C'est l'atelier le plus demandé aujourd'hui. On a une grosse liste d'attente sur ce labo cuisine entièrement aux normes avec des chambres froides, avec... Des plaques à induction, des plonges, enfin tout est fait pour les professionnels. Et puis après, on a ce qu'on appelle la fabrique, c'est plutôt des ateliers fermés, c'est des personnes qui ont besoin de leur propre espace, soit parce que c'est du stockage, soit parce que justement leur profession, leur métier, leur demande. Donc on a un plombier à vélo, on a un réparateur de vélo, on a quelqu'un qui fait de la marqueterie, on a des paysagistes. Puis enfin, on a un dernier atelier qui s'appelle l'atelier créatif, où là, on va retrouver beaucoup de métiers différents. Abat-jouriste, on va trouver le métier de designer, on va trouver le métier de couturier. Enfin voilà, il y a plein de métiers différents dans cet atelier créatif, des artistes également. Et un micro coworking pour tous les métiers. C'est un coworking traditionnel avec des gens pas traditionnels. C'est pas des métiers de développement web ou de phoning commercial. Ça va être du graphiste, ça va être de la créatrice de jeux. Voilà, c'est plein de métiers différents.
Pépina, le nom, juste le nom. J'ai l'impression que là aussi il y a une inspiration bois, pépinière.
Alors une petite anecdote. Au tout départ du projet, ça devait s'appeler Plan C. Pour cuisine, création. Et en fait, notre banquier, quand on a voulu aller faire le prêt, il nous a dit, plan C, le C, c'est pour cocaïne ou pour cul? Et du coup, là, c'est pas un bon nom. Donc, on a changé.
C'est bien d'avoir des regards extérieurs.
Exactement. Et du coup, non, Pépina, c'est pépinière artisanale, pépinière artistique, pépinière angevine. Bon, c'est assez facile, mais ça fonctionne bien.
Alors, vos rôles aujourd'hui, à vous trois, à Victor et Antoine et toi, Manu, du coup, vous dirigez tout ça. Est-ce que toi, t'as le temps encore d'aller un petit peu dans l'atelier menuiserie ou pas du tout? Vous faites quoi, en fait?
Alors, nous, on est trois. Il y a Victor qui est vraiment ingénieur de formation. Lui, il va s'occuper de tout ce qui est équipement, maintenance des machines, contrat de partenariat, achat. Antoine s'occupe de toute la partie commerciale, donc les partenariats, l'événementiel. Voilà, il a beaucoup de taf avec toutes les visites artisans aussi. Et puis moi, je m'occupe de tout ce qui est administration, gestion, RH, marketing, communication. Voilà. Et non, je n'ai plus le temps d'aller dans l'atelier bois et j'ai même maintenant peur des machines, parce que j'ai vu très bon ami perdre 2 doigts dans une machine devant moi et depuis, je ne peux plus toucher une machine.
Ah oui, donc t'es plus du tout menuisier, maintenant t'as changé de métier finalement.
Exactement, c'est fini.
Bon, on continue à en parler de Pépina, on va explorer un petit peu plus les locaux, peut-être donner à voir aussi, et puis parler de ce marché de Noël, bien évidemment. Mais avant tout ça, pause musicale, et on vient ensemble juste après.
Tu sais, moi tu me donnes ce que j'ai dans le sang, et souvent mon cœur consomme des litres au sang. Je suis pas économe, pas commerçant, et je crame tout comme l'adolescent.
Je suis rentré dans l'existence, peut-être pas dans le bon sens. Je me sens décalé, mais c'est sans importance. Faut marcher droit, je suis tordu. Âme de sorcier, corps de moldu. À la part, j'ai pas mordu. Poisson volant.
L'amour fut un manège. Quand tu m'avais tendu ce piège, t'avais disparu seulement pour moi. Et j'y ai cru de ma candeur. Maintenant mes phobies ont peur. Quand je suis sincère, c'est l'ascenseur. J'offre la corde de mon cœur. Et c'est un leurre. J'ai plus le cran de m'envoler. Avec les autres m'abandonner. J'ai le vertige de mes anges. Je suis tout en haut comme un étranger. T'as pris le temps que je voulais donner pour mes amis et mes amours. J'essaie de polir autrement d'atouts sur mon visage aride.
Je suis rentré dans l'existence, peut-être pas dans le bon sens. Je me sens décalé, mais c'est sans importance. Faut marcher droit, je suis tordu. Âme de sorcier, corps de moldu. À la part, j'ai pas mordu. Poisson volant.
Toujours affamé,
assez.
Oublié parfois, piétiné. Les cicatrices me fait divers. Éclat de rire, éclat de verre. Quand toutes mes failles passent la lumière, comme un Versailles, je m'en sers. Pour ensuite les recycler. En mélodie, en mots-clés. Alors à tes pieds, je dépose ce petit bouquet de névrose. Alors à tes pieds, je dépose ce petit bouquet de névrose. Poisson volant contre courant, je suis pas comme je trace une route, voyage en soute, je joue le jeu.
Tu sais, moi je donne ce que j'ai dans le sang, et souvent mon cœur consomme 10 litres au sang. Je suis pas économe, pas commerçant, ouais, je crame tout comme l'adolescent. Moi je donne ce que j'ai dans le sang, et souvent mon cœur consomme 10 litres au sang. Je suis pas économe, pas commerçant, ouais, je crame tout comme là.
Poisson volant de Rookin et Théophile sur le 101.5 FM.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Dans quelques instants, on va regarder le Cinéma Sprint. On va découvrir aussi cet événement. Si vous ne le connaissez pas et si vous allez donc être frustré de ne pas pouvoir participer à la prochaine édition, il faudra attendre janvier 2027. Et oui, on se projette très loin ici dans Topette. Mais avant tout ça, on est de retour avec toi, Manu, Emmanuel Berson, un des trois personnes qui gèrent Pépina, dont on a compris que le nom maintenant, voilà, il fait bien de s'appeler Pépina. On va parler du marché de Noël aussi dans quelques instants. Mais avant tout ça, je voulais faire réagir peut-être François. Et Quentin. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Pierre Benoît.
Et bonsoir François.
Bonsoir.
Alors François, toi t'es à WeForge, c'est une structure un peu similaire à ce qu'on peut avoir à Pépina, sur des thématiques peut-être différentes, dans des concepts aussi qui varient. Toi tu connaissais ou pas Pépina ?
Ouais, bien sûr, je connaissais Pépina. En fait, il se trouve qu'avec Emmanuel, on s'est aperçu tout à l'heure, on s'est dit, mais on se connaît, on a déjeuné ensemble il y a quelques mois.
On est partis en vacances ensemble.
et je connais aussi Antoine et Victor, et j'y suis allé plusieurs fois parce que j'ai travaillé sur un projet avec une personne qui est chez Pépina.
Et toi, Quentin, alors ?
Ouais, ben, je le connaissais aussi, dédicace à Pascal Mitono, qui du coup nous avait rassemblés un jour à une table aussi pour déjeuner. Et j'ai déjà entendu parler plusieurs fois de Pépina. J'ai des potes qui ont eu leur bureau et qui ont encore leur bureau là-bas. Et j'avais pu visiter l'espace qui est vraiment très sympa, surtout l'endroit où vous chillez pour boire des coups et manger, et qui est un peu l'endroit de chill et qui est très cocooning, qui est très chouette.
Alors, j'ai peur honnêtement d'avoir rassemblé deux maisons concurrentes, d'avoir Gryffondor et Serpentard d'un côté et de l'autre de la table. Et c'est quoi les nuances entre Pépina et WeForge ? Est-ce qu'on est sur des choses similaires qui ont été faites à des endroits différents ? Ou il y a des variations François ou Manu, peu importe hein.
Vas-y François.
Même si tu représentes, tu parles pas forcément au nom de WeForge.
Voilà, moi je travaille pas pour WeForge, et je suis chez WeForge, j'ai mes bureaux là-bas, mais je les connais très 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 bien. C'est vraiment la famille, hein, voilà, c'est clair. Ça fait 8 ans que plus de 8 ans que j'y suis, et bah WeForge c'est du bureau partagé, plutôt accès prestations de services, si on doit caricaturer, même si c'est pas que ça, et ça va toucher des personnes qui sont soit entrepreneurs ou qui sont en création d'entreprise et qui vont monter une boîte. Ça peut partir de je suis tout seul, et on peut être à WeForge jusqu'à avoir 20-25 salariés avec soi ou prestataires de services avec lesquels on travaille. Ça va toucher des freelances, beaucoup de métiers dédiés aux freelances, et des travailleurs détachés, mais on est plutôt voilà dans un cadre prestation de services, alors que Pépina est beaucoup plus métier créatif et artisanal.
En fait, c'est le secteur d'activité qui varie, Manu ?
Ça se complète. En fait, nous, on s'entend très bien avec WeForge parce qu'on n'est pas du tout concurrent, on est complémentaire. C'est-à-dire que suivant ton activité, ben, qu'est-ce que tu recherches? Nous, on oriente plus vers WeForge sur certaines activités et WeForge oriente plus vers Pépina sur certaines autres activités. Donc, c'est vraiment très complémentaire d'avoir ça sur le territoire. Ouais.
En tout cas, dans les deux cas, et pour Pépina, puisque toi, tu peux en parler, Manu, bien évidemment. Oui. Comment c'est plus qu'une proposition de mise à disposition de locaux ou d'espaces de travail? Il y a une plus-value aussi, une sorte de management un peu subconscient où les gens se rencontrent et des choses émergent?
On essaye le plus possible. Ouais. En fait, l'esprit communautaire, il est vachement important. On l'a remarqué dès le début, même quand il y avait que 5 résidents au tout départ. En fait, la communauté, c'est super important parce que c'est comme ça que les gens, les professionnels, vont de une partager du business. C'est-à-dire qu'en gros, je suis architecte d'intérieur chez Pépina, ben, je vais peut-être pouvoir bosser avec le menuisier, avec la décoratrice. Enfin, donc du coup, en fait, ça, c'est important. L'esprit communautaire, nous, c'est ce qui va nous permettre aussi de bien comprendre les besoins de tout le monde. Ce qui vont se rassembler entre professionnels et dire... Bah là, nous, on a plus un besoin là-dessus. Donc, on se dit, ah ouais, ok, il y a un besoin là-dessus. Est-ce qu'on n'investirait pas dans une machine parce qu'il y a un besoin? En fait, nous, le service, il se complète au fur et à mesure, tous les jours. Développement du réseau d'affaires, développement des machines, développement de tout. En fait, on anime tous les jours. Si tu veux, on a une petite animation jeudi matin sur le marketing numérique, animée par la Chambre des métiers de l'artisanat chez Pépina. Voilà.
Tu me dis à moi, tu veux que je...
Non, mais c'était un exemple clair, net.
Et justement, la question suivante, c'est comment ça se caractérise, ça se concrétise? Est-ce que c'est en lien ou pas avec le marché de Noël? Est-ce que justement le marché de Noël est une proposition?
Ça fait partie, ouais.
Eh ben, parlons-en alors du marché de Noël.
Non, mais en fait, le but, c'est vraiment d'animer au maximum. Donc là, nous, entre résidents, on fait un apéro de résidents tous les mois, on fait un petit déjeuner de résidents tous les mois, et on fait également, là, par exemple, on fait des animations. Donc là, il y a le dîner des résidents de Noël qui est la semaine prochaine, ça fait partie de l'animation. Les gens vont se rencontrer, parce qu'ils bossent pas tous aux mêmes horaires. La cuisine, ils sont plutôt très 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 matinaux. Et puis il y a d'autres professions qui sont un peu plus dans l'après-midi.
Il y a pas d'horaire de fermeture, non?
Exactement. Non, c'est ouvert 24/24, 7/7, et il y a toujours du monde chez Pépina. Et oui, le marché de Noël, ça fait partie des animations d'ouverture au public. Là, c'est organisé par deux résidentes, Lisa Mass et Anne-Lise. Qui sont illustratrices et puis Lisa, elle est illustratrice et architecte d'intérieur, et elles organisent un marché de Noël dimanche prochain, et c'est que de l'artisanat d'art dimanche prochain.
Qui sera donc, qu'on le comprenne bien, ouvert au public, on peut
tout
nous
à
y
fait.
Aller.
C'est de 11h à 19h dimanche. On ouvre la salle de vie, il y a un peu, je crois qu'il y a 17 exposants, et c'est que de l'artisanat, pour la plupart fabriqué chez Pépina, ou en tout cas juste dans la région.
On rappellera les dates, les infos pratiques tout à l'heure avant de se quitter pour de bon. À Pépina, tout semble idyllique, parfait. Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il y a des projets, des ambitions en cours?
Ouais, il y a plein d'ambitions. En fait, on remarque que beaucoup de territoires envient le territoire angevin. On est appelé pas mal par des municipalités, par des communautés de communes, par pas mal d'agglomérations, parce que c'est un service qui manque, c'est un service qui coûte cher. Hein. Nous, on lève des fonds pour aller ailleurs, donc on risque d'ouvrir en 2026 à Saint-Nazaire. Et puis, on prépare une troisième ouverture dans le Grand Ouest. En fait, on se rend compte que quand tu fais une grande école ou quand tu fais une grande école, t'as souvent un réseau alumni. Tu sais, tu fais HEC, t'as un réseau alumni, t'as pas mal de réseaux. Et en fait, quand tu sors de CAP pâtisserie ou quand tu sors de CAP menuiserie, eh ben, tu sors avec zéro réseau. Et nous, on se dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est un réseau d'artisans créateurs, pour que tout le monde, ceux qui passent chez Pépina, puissent, s'entraider, même s'ils sont partis et qu'ils ont grandi, ils pourront revenir et aider ceux qui sont là aujourd'hui. Donc nous, on a envie de faire un gros réseau.
Alors Manu, on a bien compris que la menuiserie était un chapitre définitivement clos pour la pratique chez toi.
Ouais.
Si tu revenais quand même en arrière, du coup, au moment où tu t'es lancé là-dedans, est-ce qu'aujourd'hui, si Pépina avait existé à ce moment-là, tu aurais trouvé tout ce dont tu avais besoin, et peut-être que ta vie aurait été différente?
On le réfléchit comme ça. Le Manu d'il y a 12 ans, qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir? Et en fait, sur la partie menuiserie, je pense qu'on est plutôt complet. C'est plutôt En vrai, tous les jours, on réfléchit à ça. Et je pense que c'est sur la partie communication où il y en a qui ont de l'or entre les mains chez Pépina et qui ont du mal à communiquer parce qu'ils savent pas faire. Prendre une belle photo, c'est compliqué. Parler à la radio,
c'est un métier différent, en fait. C'est compliqué.
C'est un métier complètement différent. Et je pense que les services, s'ils doivent évoluer, c'est sur cette partie communication. Comment on peut aider ceux qui s'installent à bien ou mieux communiquer, à bien ou mieux vendre aussi. C'est un des... Quand tu fais un CAP menuiserie, faire un devis, c'est... les premiers devis, c'est compliqué, ouais.
Rien à voir, Manu, est-ce que tu joues aux jeux vidéo ?
J'ai joué. Je ne joue plus.
T'as quoi comme ton jeu favori, c'est quoi ?
Je pense que GoldenEye sur Nintendo 64, je l'ai poncé.
Tu l'as en loose ou en...
Je l'ai en loose.
Les termes qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est la transition pour la chronique de Let's Game maintenant dans Topette.
Let's Game, la chronique gaming de Topette avec Mathieu.
Eh oui, il y a 15 jours, Pierre Benoît, tu m'as posé la question. Les enfants jouent-ils moins aux jeux vidéo qu'avant ? Alors du coup, on va prendre le temps d'y répondre un petit peu parce que cette question est quand même très floue. Il faut déjà définir c'est quoi avant. Si on remonte dans les années 80, le prix des consoles était beaucoup plus élevé que maintenant par rapport au pouvoir d'achat des Français. C'est-à-dire que malgré le fait que les consoles et les jeux vidéo coûtaient moins cher que maintenant, le salaire des Français était également moins élevé. Par conséquent, les consoles étaient moins accessibles. Pour exemple, la NES, la toute première Nintendo sortie, elle coûtait à peu près 1500 francs, soit, si on convertit tout actuellement, 451 euros. Là où la Switch 2, qui est sortie en 2017, si j'ai bonne mémoire, coûtait 330 euros. Il en va de même pour les jeux. Par exemple, si on reprend le premier Mario, dans les années 80, il coûtait 25 $. Si on convertissait à l'heure actuelle, on est aux alentours de 100 $. Tout ça pour dire que dans les années 80, les consoles étaient moins accessibles qu'actuellement. Une petite note au passage pour celles et ceux qui trouvent que les jeux vidéo coûtent trop cher. Comme vous pouvez le voir, les jeux vidéo sont l'une des choses qui a le moins subi l'inflation. Et je serais pas surpris que dans les prochaines années, on nous annonce des jeux à sortie de départ d'une centaine d'euros. Et voilà qu'encore une fois, je m'éloigne un peu du sujet. Ça change pas d'habitude, ça. Donc, si on compare les enfants des années 90 aux enfants d'aujourd'hui, au vu de l'accessibilité, plus d'enfants actuellement jouent aux jeux vidéo. Bien évidemment, tout ça, ça a été accéléré par les sorties des consoles de moins en moins chères, au niveau du coût, par rapport au pouvoir d'achat, mais également par une consommation différente du jeu vidéo. Les ordinateurs sont devenus trop chers et moins familiaux. Les consoles portables ont facilité un accès aux jeux mouvants et accessibles partout. Et puis, les consoles sont à la mode maintenant. Dans les cours d'école, de collège, de lycée, certains groupes d'enfants ou d'adolescents se constituent autour d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo est devenu un vecteur de lien social avec un sentiment d'appartenance à un groupe. Si on s'intéresse maintenant au milieu scolaire très spécifiquement, j'organise personnellement des temps d'accueil périscolaire depuis 2018 auprès d'enfants de 6 à 11 ans. Et j'ai toujours la même physionomie dans un groupe. Sur environ 18 enfants, il y a en moyenne 15 enfants qui jouent aux jeux vidéo en respectant les PEGI, 2 qui ne le respectent pas et 1 qui ne connaît pas du tout l'univers. Maintenant, on pourrait se dire qu'à partir de l'adolescence, les jeux vidéo vont de plus en plus être mis à l'écart au profit des réseaux sociaux. Alors peut-être, sans doute, que les jeunes, accordent moins de temps aux jeux vidéo, mais cela n'empêche qu'un adolescent sur deux se dit passionné de jeux vidéo. Les moyens d'échange que sont Discord, une plateforme de communication, YouTube, Twitch, etc., permettent aux adolescents de s'identifier à des joueurs et à des jeux qui les intéressent. On pourrait parler des espaces jeunes, qui peuvent avoir de plus en plus de mal à avoir de la fréquentation parce que justement les jeunes restent chez eux à jouer aux jeux vidéo. Le jeu vidéo et les écrans plus largement sont devenus des enjeux sociétaux. Je peux vous prendre pour exemple les différents pouvoirs publics qui essaient maintenant de faire de la prévention et d'avertir sur l'utilisation des écrans. Mairies, centres sociaux, bibliothèques devenues ludothèques, centres de loisirs, familles. Nous sommes tous impactés par ceci et il faut dès à présent réagir et trouver des solutions. Car elles existent. Les chercheurs et les docteurs en psychologie écrivent des livres, les acteurs locaux mettent en place des actions de prévention pour accompagner les jeunes et plus largement les familles. La société entière est entrée dans une nouvelle phase numérique et il faut apprendre à la gérer. Alors par contre là, Pierre Benoît, faudrait que tu me rappelles la question de départ.
C'était est-ce que les jeunes jouent ou pas aux jeux vidéo aujourd'hui?
Oui, parce que là, on remarque encore une fois qu'on s'éloigne vachement du sujet. Si on s'intéresse aux chiffres actuels, entre 2018 et 2025, on est toujours sur le même pourcentage d'enfants qui jouent aux jeux vidéo, qui ont entre 10 et 14 ans, soit environ 95% de la population. Donc, ils jouent toujours aussi assidûment. Maintenant, j'aimerais amener un autre chiffre à votre attention. Donc, sur la même durée, en 7 ans, la moyenne d'âge du joueur a augmenté de 6 ans, passant de 34 à 40 ans. Pour preuve que le jeu vidéo, n'intéresse pas seulement les jeunes, mais également les plus vieux, et sans doute pas pour les mêmes raisons. Si je peux rajouter une petite information qui n'a strictement rien à voir.
Vas-y.
Si vous souhaitez découvrir l'association Let's Game en événement, n'hésitez pas à venir au Jour à Jouer, un événement organisé par la maison de quartier des Trois-Mâts à Angers. Il s'agit d'un événement de 4 jours, les 20, 21, 22 et 23 décembre. Comme chaque année, la thématique est autour du jeu en règle générale. Vous y trouverez jeux de société, jeux en bois et bien évidemment de la prévention et des jeux vidéo familiaux. N'hésitez pas à venir nous voir pour plus d'informations. Rendez-vous sur le site des Trois-Mâts. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.
Merci beaucoup Mathieu, on se voit l'année prochaine du coup. Je te pose pas d'autres questions, tu me feras la surprise de la prochaine thématique de la chronique de Let's Game. En attendant, nous on continue avec notre deuxième sujet de la soirée. On va essayer d'aller vite parce qu'on va même se taper un sprint. Bah oui, parce qu'on parle de cinéma sprint. Bon, rebonsoir Quentin.
Rebonsoir Pierre Benoît.
Et rebonsoir François.
Et rebonsoir.
Alors François qui avait l'air aussi un collab en jeu vidéo avant de parler de Cinema Sprint, est-ce que tu sais ce que faisait Nintendo avant de faire des consoles?
Poisson.
Du poisson? Est-ce que c'est ça?
Et non. Avant c'était les cartes à jouer, les fameuses cartes Pokémon qui sont revenues après, ils ont fait des équivalences. Ils ont commencé comme ça.
Voilà, mais c'est pas un fidèle auditeur de la chronique de Let's Game, c'est pour ça. Mais on n'est pas là pour parler de jeux vidéo, donc on va plutôt parler de Cinema Sprint. Alors 7e édition, j'ai plus la date précise, ce sera fin janvier 2026.
L'événement commence le 16 janvier, se clôture le dimanche 18 janvier. Pendant le premier week-end du festival Premier Plan d'Angers.
Voilà, avec une restitution. Alors, je crois même qu'on change de salle cette année, non? On reste dans la même salle?
On n'est pas validé à 200%, on va dire. On est à 85%.
Voilà, c'est encore en pourparler avec les équipes qui organisent Premier Plan.
On va sentir l'énergie de cette salle ce soir, en fait.
Exactement.
Juste après.
Pour savoir si oui ou non vous validez de votre côté.
Ce soir, il y a la présentation de saison du coup du festival Premier Plan. C'est Claude-Éric qui prend la parole ce soir pour annoncer la programmation. Du coup, on y sera spectateur dans cette fameuse salle dans laquelle on se pose la question de se déplacer pour notre clôture cette année. Donc l'idée, c'est voilà, on a besoin d'avoir ce moment pour valider à 200% qu'on va ici.
Et justement, alors elle est plus grande que la salle des éditions précédentes, donc la question c'est de savoir aussi comment on peut ou pas la remplir, donc aussi de parler, parce qu'on peut venir assister à la restitution du Cinema Sprint. Il y a combien de places, juste qu'on se rende un petit peu compte de...
Alors il y a 380 places environ assises, on était à 220-230 lors des éditions précédentes, donc là on double quasiment.
À chaque fois plein en plus, la salle est quasiment...
Les deux dernières éditions, on était full, complet, il fallait placer les gens, on avait même des gens sur les marches, donc ouais.
On va reparler un petit peu de comment on peut venir assister à la restitution du Cinema Sprint dans quelques instants, mais avant on va peut-être redonner du contexte. Pitch du Cinema Sprint, voilà, c'est ce que vous demandez d'ailleurs aux personnes qui commencent l'événement pendant ces 48 heures, de commencer à pitcher l'idée d'un scénario. Là je vous propose, François ou Quentin, de pitcher la présentation du Cinema Sprint.
En combien de minutes, Pierre-Benoît?
Une minute.
Waouh, okay. Ça sera 3 minutes, Pierre-Benoît.
3 minutes, très bien, vas-y Quentin.
Alors du coup, le Cinema Sprint, c'est un week-end dédié à la création audiovisuelle. Donc on accueille 100 participants qui viennent un week-end créer des projets en collectif, des projets cinématographiques. Donc ils viennent le vendredi, ils arrivent à WeForge, ils ne se connaissent pas, et les volontaires pitchent un projet en une minute, et les projets qui parlent le plus ont le droit de créer une équipe.
La règle du jeu ensuite, donc il y a une sélection d'environ 10 projets, mais comme on est plus de participants cette année, on va sûrement être à 12 projets. La règle, c'est que chaque équipe doit réaliser un objet audiovisuel qui va durer entre 1 et 5 minutes. Pas de thématique imposée, pas de style audiovisuel imposé, ça peut être du clip, du documentaire, de la fiction, un objet absolument alternatif, accompagné d'une prise de parole, donc d'un pitch final le dimanche, qui vient finalement illustrer cet objet audiovisuel, puisque l'idée pour nous, c'est pas de dire qu'en un week-end on peut faire du cinéma, mais par contre on peut faire un prototype et l'accompagner d'une prise de parole. Donc tout notre enjeu à François et moi, c'était de se dire comment on peut mettre le pied à l'étrier des artistes locaux pour les sensibiliser au pitch producteur finalement. Donc notre jury est composé uniquement de producteurs de cinéma. Il y a aussi un jury de la presse dont a fait partie Pierre Benoît plusieurs années. Et puis on a le prix du public qui du coup cette année va encore plus prendre de sens avec une salle qui normalement sera plus grande. Et voilà, c'est un événement qui est surtout très humain. Là on parle de la forme, de mais c'est une expérience humaine. Et bah je te laisse François toi aussi dire ce que tu penses de cette expérience.
Ouais, c'est un événement très fort, vraiment très très fort puisqu'il est à la croisée des chemins entre l'artistique, la culture. On sait qu'aujourd'hui c'est essentiel, c'est des modes d'expression qui sont nécessaires et qu'il faut protéger, et de l'entrepreneuriat en fait quelque part aussi, puisqu'on met les gens en mode projet, on leur apprend à parler, à prendre la parole devant des producteurs, des productrices, et ça il faut avoir une vision de son projet, il faut caler ses intentions, ce qu'on a envie de faire passer comme message, mais l'enrober en fait d'un projet, de quelque chose de pragmatique qui est potentiellement réalisable et qui va parler à des gens qui voient avant tout, je dis pas que avant tout, mais qui voient en plus des intentions artistiques, des chiffres, des projets et de l'organisation.
Et du coup, juste, l'événement est ouvert à toute personne qui a envie de participer à cet événement, c'est-à-dire professionnel, étudiant, amateur. On ne fait pas de sélection. Premier arrivé, premier servi. Là, cette année, on avait augmenté notre billetterie de 20 personnes. On est complet à un mois et demi, deux mois de l'événement. Donc, c'est juste incroyable pour nous. D'autant plus qu'on avait augmenté le tarif d'inscription ayant des réductions budgétaires. Donc, c'est pour nous un bonheur. Franchement, on n'a qu'une seule hâte, c'est d'y être. Maintenant, c'est pour ceux qui nous écoutent, en effet, qui voudraient participer. Ça sera, comme tu le disais tout à l'heure, pour l'édition suivante. Donc, c'est possible de nous suivre sur Instagram, on communique à chaque fois l'ouverture de la billetterie 3 mois à peu près après l'événement.
Et ça fait 3 minutes tout pile, donc voilà, parfait. Bravo. Est-ce que vous avez un souvenir, si on creuse un petit peu les émotions, les images qui reviennent, un souvenir marquant des dernières éditions qui vous a toujours amené finalement à poursuivre à chaque fois, ou un sentiment qui revient chaque année à chaque édition, Quentin, François?
Je pense que c'est un événement. Enfin, moi, c'est une sensation un peu globale. Je crois, c'est la sensation qu'on a galéré vraiment sur les premières éditions. C'est énormément de travail. Grâce à l'expérience de François, son métier, il en a pas parlé, mais c'est d'organiser des événements d'intelligence collective. Donc, on partait aussi avec un bagage et une expérience et puis une exigence pour avoir un événement qui vraiment était solide en termes d'organisation. Moi, de mon côté, un point de vue plus artistique de par mon métier de comédien, de réalisateur, etc. Et du coup, on a galéré pour se dire, on veut faire quelque chose de vraiment fort, quoi. Et puis convaincre les gens de participer qui n'y connaissaient rien et qui devaient payer leur place, enfin c'était vraiment chaud. Et c'est tout le parcours pour en arriver aujourd'hui à un événement depuis 2-3 éditions là où on voit une énorme différence, où vraiment les gens connaissent l'événement, on a une billetterie pleine et c'est tellement agréable parce que avant on devait se battre pour faire un événement. Là maintenant, on sent qu'on est aussi porté par une vague et qu'on peut vraiment davantage être dans le plaisir et dans le relâchement en fait, quoi. Donc c'est moi, ça serait ça ma sensation. C'est une sensation de se dire là maintenant, on sent que là on profite et que ça devient vraiment surtout du plaisir, quoi.
Toi, François?
Ouais, totalement en phase avec ce que vient de dire Quentin de manière générale. Et puis si je peux illustrer avec des exemples peut-être plus direct, on a Nathan par exemple qui nous a envoyé un mail il y a très peu de temps. Nathan, il est venu au tout premier Cinéma Sprint, c'était le plus jeune de l'événement, il avait je crois 16 ans, 17 ans. Il savait pas trop ce qu'il voulait faire après post-bac, quoi. Du coup, il est venu participer à cet événement. Il s'est dit, mais c'est génial, j'adore, je veux faire ça. Il a intégré une école du territoire qui est partenaire du Cinéma Sprint, qui est Studio M. Et là, il vient d'être diplômé. Et en fait, il nous a envoyé un mail, il nous a fait un petit cadeau en revenant sur ce parcours et en nous disant merci. Alors, voilà, c'est incroyable que l'événement puisse aussi catalyser ça. Et on a, là, je pense à Cécile qui a été participante au dernier Cinéma Sprint avec une histoire poignante personnelle qui l'a touchée. Et elle a décidé de continuer son projet. Elle est financée, elle a un producteur et elle tourne là en février. Donc voilà, ça, c'est des petites histoires sympas aussi qui peuvent se passer. Et on est content d'être là et d'être en fait une marche dans un parcours de participants.
Et ben voilà de quoi donner envie aussi d'assister à tout ça, parce que là on pourra pas participer pour cette édition, c'est clos, c'est complet, mais on peut venir assister à la projection des... Alors il y en aura 5, 6...
12
12 Non.
Si, si, il y a 12 ah projets. Ouais, y a 12 projets là, ouais. À chaque fois, quand tu viens, il y a déjà 10 projets, Pierre-Benoît.
Ah oui, bah, je dois confondre avec autre chose. Je pensais qu'il y en avait 5. Il y en a 12. Ok, d'accord. Au total. Bon, en tout cas, une belle soirée en perspective. Comment ça marche si on veut assister à cette projection?
Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur www.cinemasprint.fr.
À l'ancienne.
Carrément. HTTP. Non, mais du coup, vous allez sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux Instagram. Vous accédez à la billetterie spectateur. On peut pas la louper.
C'est payant?
Ouais, c'est payant, c'est 8 euros la place spectateur, et ça donne accès à toute la soirée de clôture qui se déroule au centre des congrès et qui se déroulera logiquement à 17h. Entre 17h et 18h, on est encore un petit peu en débat sur l'horaire exact, mais voilà, ce sera un des deux.
Dans l'auditorium, c'est ça, hein?
Bah, au centre des congrès. Voilà, ce sera fléché. La salle sera bientôt calée.
Et du coup, on redit le dimanche 18 janvier. Voilà, si vous hésitez, vous pouvez aussi voir des lives des éditions précédentes sur notre site internet. Ça peut vous donner une idée de l'événement. Avec François, on essaie aussi de rendre cet événement animé et vivant.
Vous le faites très bien, hein. L'animation en tout cas, vous êtes tous les deux au micro tout au long de la soirée, c'est aussi, ça participe.
Bah, merci, en tout cas on s'éclate et on espère avoir une salle pleine sold out, même en amont de l'événement, pour vraiment voilà, kiffer. Donc faites-nous vivre ça. On veut un sold out ce soir grâce à Radio G.
On le sait que le mois de janvier, c'est pas le mois le plus gai de l'année, hein, voilà, mais et puis en plus un dimanche, bah justement, allez-y au Cinéma Sprint, parce que comme ça va vous remettre une petite dose d'énergie et puis de bonne humeur, et puis vous allez sortir avec beaucoup d'émotions, des larmes, des rires et puis tout ce qu'il faut, et puis après ça s'éternise en plus. On peut boire un petit coup, tout ça, avec vous.
Carrément.
Ouais, c'est hyper convivial comme clôture. Ouais.
Convivial, ouais. C'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup, Quentin.
Et puis, allez au Festival Premier Plan de manière générale. La programmation arrive là cette semaine, donc n'hésitez pas à regarder. C'est un festival, pareil, qui est ouvert à toute personne qui a envie d'aller voir du cinéma. Il faut soutenir cet événement qui est très important à Angers.
Radio G et Radio Campus sont partenaires et justement on sera là pour couvrir Premier Plan, donc vous pouvez aussi rester branché sur le 101.5 FM pour en découvrir davantage. Merci François également, et puis bah merde comme on pourrait dire au théâtre,
on prend
pour tout direct. Ça, et puis bah bon courage, on se tiendra informé. Merci Manu aussi du coup pour Pépina. Ça va, t'as passé un bon moment?
Super moment.
Ouais, oui, c'est, oui. Cinéphile un petit peu ou pas du tout?
Oui.
Ouais,
oui, oui.
Donc vidéophile et cinéphile.
Oui.
Cinéphile, j'ai l'impression de confondre avec un autre.
C'est cinéphile. Bien ça,
cinéphile, ouais. Ok. Bon, bref, Pépina, marché de Noël, les infos pratiques qu'il faut retenir, Manu.
Infos pratiques, c'est chez Pépina. C'est dimanche 14 décembre et c'est de 11h à 19h. Ça sera fléché parce que c'est pas facile de nous trouver, mais ça sera fléché.
Et le site internet https://.
Non, pépina.fr.
Tout simplement, les réseaux sociaux, TikTok peut-être vous. Hein.
Je crois qu'on a ouvert une page TikTok.
C'est pas toi qui fais la com.
C'est pas moi qui fais les vidéos TikTok.
Bah, allez voir Pépina peut-être sur non, TikTok
Pépina,
pour découvrir.
On est sur tous les réseaux sociaux.
Et on inaugure aussi, il faut le dire, un nouveau partenariat. Donc tous les
tout
mois, toi ou quelqu'un d'autre viendra dans Topette pour nous partager les actualités et nous parler des... Alors, le terme, les gens qui sont à Pépina?
Les résidents, ils sont en résidence chez Pépina. Voilà, tout simplement.
Et ben bah, merci beaucoup. On va se quitter avec Tonton Albert. On se retrouve demain à 18h10. Prenez soin de vous. À demain et Topette.
Dis-moi, tonton, il me semble que ta bouteille du jour est une cuvée un peu spéciale.
On ne peut rien te cacher, Sidonie. Je te propose aujourd'hui de t'arrêter sur la polysémie de certains mots de notre vocabulaire usuel. Autrement dit, sur les cas où un même mot possède plusieurs sens et qui, parfois, dans sa seconde version, dit carrément le contraire de ce qu'il signifiait dans la première.
J'imagine que tu es venu avec quelques exemples logés dans le fond de ta bouteille.
Tout juste. Je vais commencer par quelque chose d'anodin, le mot « hôte », qui désigne aussi bien celui qui reçoit que celui qui est reçu. Tu avoueras que c'est sacrément pratique pour s'y retrouver. Tu perçois déjà le dialogue de sourd du type
« Cher ami, vous êtes mon hôte ».
Mais pas du tout, c'est moi qui le suis. Bref, on est bien parti pour un grand moment d'incompréhension. Passons à l'exemple suivant, tout aussi surprenant, est le mot « personne », qui évoque tantôt la présence, « vous êtes la personne que j'attendais », tantôt le vide total, « il n'y a personne ». pour le moins déroutant, n'est-ce pas, de passer sans transition du quelqu'un au rien du tout. Un certain Ulysse ne s'y est du reste pas trompé. Souviens-toi, Sidonie, quand Ulysse crève l'œil unique du cyclope, il lui dit que son nom est personne. On n'est pourtant pas dans un western. Ce qui fait que quand le coléreux Neptune, le papa du cyclope, demandera à son fiston « Mais sacrebleu, qui t'a fait ça, mon fils ?» et que son rejeton lui répondra « Ben, c'est personne », il passera pour un gros bonnet. « Faites des gosses, tiens !» se dira Neptune. Et puis, il y a d'autres termes qui renferment une bonne dose d'humour si l'on y regarde de plus près.
Comme quoi, par exemple ?
Je pense notamment au terme de « patient ». On va dire que c'est un terme qui porte haut et fort sa signification. « Patient », lorsque l'on se retrouve confronté au monde médical, il y a effectivement intérêt à l'être. Les rendez-vous programmés à 15h, qui, dans le meilleur des cas, se concluent par une entrée dans le cabinet du médecin une heure plus tard, ne sont pas rares en effet. Les impatients sont donc priés d'aller se faire soigner ailleurs ou de ne pas tomber malade. À noter qu'il y a des circonstances où, même en n'étant pas malade, il est vivement conseillé de se montrer patient. Comme quand on attend un TER sur un quai de gare, par exemple. Je me demande d'ailleurs pourquoi la SNCF continue d'appeler les gens qui achètent des billets de train des clients et non pas des patients. Et puisque je me suis arrêté à l'instant sur le registre de la maladie, que penses-tu, Sidonie, du mot « affection » ?
Bien vu, tonton. C'est à la fois la maladie et un sentiment.
Tout juste, ma jeune amie. On parle aussi bien d'affection chronique ou rhumatismale, surtout chez les vieux machins comme moi, que d'un penchant pour autrui. On peut éprouver de l'affection pour n'importe qui, de son chat à la voisine d'en face. En gros, l'affection, c'est un changement d'état. On est pépère, tranquille, en train de se tourner les pouces et paf ! Surgit l'affection, sous la forme du limbago comme de celle du coup de foudre, au choix. L'affection serait donc une trahison de notre propre corps ? Il y a un peu de ça. J'aime bien également le mot « impression ». Quand on dit « faire bonne impression », ce n'est pas toujours parce que l'on vient de changer les cartouches de l'imprimante. Ici, l'idée directrice qui nous fait passer du propre, le truc imprimé, au figuré, le dernier spectacle que j'ai vu m'a franchement impressionné, c'est la notion d'empreinte. Autrement dit, la chose qui restera, que ce soit un bout de papier ou une sensation qui perdure longtemps après dans notre mémoire. Autre glissement sémantique intéressant avec le mot « gâté ». On va de la détérioration, bon de là le temps se gâte, au favoritisme le plus délirant, ce mioche capricieux est un enfant gâté. Ce n'est donc pas anodin si gâté évolue souvent en pourri, quand on n'accole pas les deux qualificatifs.
Comme dans la phrase « cet enfant est gâté pourri ».
En Afrique de l'Ouest, on dit même « gâté complet ». Là, la tartine est beurrée des deux côtés. Et puis, il me semble incontournable de faire un focus sur ces noms qui, au masculin, sont soit neutres, soit plutôt flatteurs, mais qui, au féminin, deviennent nettement péjoratifs. Et il y en a quelques-uns. De là à penser que le langage est misogyne, quelques exemples ? Allez, quelques exemples. Garçon, en perdant une syllabe, se fait garce. En gros, je coupe le son et la féminité dévoile sa perfidie. Il faut cependant mentionner que garce n'a pas toujours été un terme péjoratif. Au départ, c'était juste la forme féminine de gars ou de garçon, rien de plus. On a un peu la même approche avec courtisan et courtisane. Déjà que le courtisan, ça n'est pas glorieux, mais avec la courtisane, on verse tout de suite dans la prostitution. Le courtisan, c'est ce type qui fait des ronds de jambes pour obtenir quelques faveurs de la part d'un personnage de pouvoir. Et la courtisane, quant à elle, se sert de ses jambes de manière plus personnelle et souvent bien plus efficace. On retrouve ce renvoi vers le plus vieux métier du monde avec entraîneur et entraîneuse. Tu noteras, Sidonie, que ces messieurs se laissent entraîner sur des pentes dangereuses dès qu'ils quittent le stade où la passion du sport les avait entraînés. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis ébahi de constater ces dérives pour le moins inquiétantes entre le mot masculin et son pendant au féminin. Et puis, cette métaphore sportive va m'offrir une conclusion à pas cher, avec le verbe « supporter ». Supporter une équipe ou la douleur, ça n'est pas la même affaire. Mais de là à dire que l'on peut supporter son équipe jusque dans la douleur, il n'y a peut-être pas loin.